France Inter.
Bouge de là, c'est la suite de la série sur nos mobilités à l'heure de la crise écologique pour comprendre comment décarboner nos déplacements. Épisode 5, long voyage, comment réduire son empreinte carbone.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter.
Il y a quelques jours, donc, le Shift Project a publié un rapport sur nos déplacements longue distance, depuis nos déplacements professionnels jusqu'à nos vacances. L'idée étant d'essayer de décarboner justement ces mobilités qui nous font prendre en particulier la voiture et l'avion. Nous sommes donc encore très dépendants au pétrole au cours de ces déplacements. Béatrice Jarige, donc, ce rapport s'inscrit dans le plan de transformation de l'économie française lancé par votre association il y a 2 ans. Quelle est la démarche exacte autour de ce rapport alors pour vous ?
Alors, quelques mots du plan de transformation de l'économie française. Effectivement, vaste programme lancé il y a 2 ans maintenant pour donner des pistes pour décarboner l'économie secteur par secteur et la rendre compatible avec les engagements de l'accord de Paris. Donc, on se veut opérationnel et on vise à produire un ensemble de propositions concrètes applicables dès le prochain quinquennat.
Donc ça, c'est clairement pour le prochain président ou présidente de la République. C'est ça, c'est une sorte de feuille de route que vous avez essayé d'imaginer.
Oui, ça pourrait être une feuille de route. Les prémices d'une feuille de route sur la décarbonation à horizon 2050 de l'ensemble des secteurs de l'économie française.
Ouais. L'idée, c'est de faire baisser de combien à peu près par an alors nos émissions de gaz à effet de serre.
Pour tenir les engagements de l'accord de Paris et compte tenu des possibilités d'absorber du carbone, on est sur moins 5% par an, dès aujourd'hui et jusqu'en 2050.
Donc ça, 5% par an, c'est pour arriver à la neutralité carbone en 2050, c'est l'objectif
c'est
que vous êtes donné.
C'est ça, on arrive à la neutralité carbone et on divise par 5 les émissions par rapport au niveau actuel.
On verra justement avec vous qu'est-ce que c'est exactement que ces déplacements longue distance. Charles Collet, qu'est-ce que vous étudiez, vous, exactement, dans le cadre de votre thèse ?
Alors, je m'intéresse, en fait, aux politiques publiques qui servent, en fait, à maîtriser la demande du trafic aérien. Parce qu'il y a un constat, en fait, sur le secteur aérien, qui est qu'il y a eu une augmentation, donc je parle avant la période Covid, parce que, évidemment, ça a rebattu un petit peu les cartes. Avant la période Covid, il y avait une augmentation de la croissance, en fait, annuelle de passagers était de 2,5%. Et de l'autre côté, il y a des améliorations techniques qui sont faites tout de même par le secteur, mais elles étaient seulement de environ un peu plus d'1% par an. Donc on voit bien que la croissance de passagers ne peut pas être contenue par les améliorations techniques qu'il y a. Et donc, au global, c'est un secteur dont les émissions n'a fait qu'augmenter. Et je pense qu'on va revenir un petit peu peut-être avec Béatrice sur le constat qui est fait sur les possibilités, en fait, de l'industrie pour se décarboner uniquement par des moyens technologiques. Mais le constat est que au vu de la temporalité 2050, la technologie ne suffira pas pour faire baisser suffisamment les émissions du secteur aérien.
Donc il faut passer par d'autres transformations plus profondes encore.
Exactement.
Que les simples apports techniques.
Qui est de baisser du coup la croissance de passagers ou de baisser la longueur des destinations.
Alors Béatrice Jarige, qu'est-ce qu'on entend par mobilité longue distance pour les Français ? Alors c'est vraiment des vacances très lointaines ou pas du tout ? Il faut revoir ça.
Alors la mobilité de longue distance, on s'est référé à la définition qui est celle des enquêtes publiques nationales. C'est plus de 80 km à vol d'oiseau du domicile ou plus de 100 km par voie routière. Donc ça commence à des distances pas extrêmement élevées.
Donc des distances qui peuvent correspondre pour certains Français à des distances qu'on réalise pour le travail, tout simplement.
Tout à fait. Il y a une bonne partie des déplacements qui relèvent de la sphère professionnelle, déplacements professionnels, et qui sont en fait des déplacements domicile-travail. Sur une distance donc de l'ordre de plus de 100 km de son domicile.
Et du coup, ce sont ces, on va dire, moyens trajets finalement qui représentent une grosse proportion, parce qu'effectivement, on entend trajet longue distance, on pense à l'avion, le bout du monde, le voyage, etc. Alors qu'en fait, en proportionnellement parlant, c'est quoi ? C'est ces trajets de 100 km par jour, 200 km par jour, qui finalement vont représenter une grosse partie.
Bah, si on regarde globalement et en se basant sur l'enquête sur la mobilité des personnes qui a été faite, c'est une enquête décennale qui a été faite cette fois-ci juste avant la crise Covid. Donc on a une bonne photo de la mobilité des Français juste avant la crise. En termes de voyageurs kilomètres, ça se répartit très équitablement entre avions et voitures, qui sont les deux gros modes de transport. La voiture représentant beaucoup de déplacements et d'une portée relativement courte, alors que l'avion, c'est très peu de déplacements et énormément de kilomètres. Par exemple, 2% des voyages sont des voyages en long courrier aérien et représentent environ un tiers des émissions de carbone de la mobilité à longue distance.
Il y a une moyenne que vous montrez par résident français, ce serait chaque année 7620 kilomètres. J'imagine avec beaucoup d'inégalités évidemment selon les personnes.
Oui, il y a pas mal d'inégalités selon les personnes. L'enquête nous permet de croiser avec différentes variables, différents paramètres. Par exemple, les niveaux de revenus. Quand vous appartenez au dixième décile, aux 10% des ménages qui ont le plus de revenus, vous vous déplacez quatre fois plus pour motif personnel que les ménages des cinq premiers déciles. Mmh. Et pour la mobilité professionnelle, c'est encore plus contrasté. Les mobilités des personnes aux plus forts revenus, c'est 15 fois celle des personnes qui en ont moins. Ouais.
Vous dites 7620 km par an, Mathieu vient de le mentionner. Comment vous avez calculé ça? Ça veut dire qu'un Français, quel qu'il soit, fait en moyenne 7620 km chaque année? Comment vous avez calculé
oui,
ça?
Oui, ce
sont les. Il y a des gens qui ne se déplacent pas du tout, donc ça veut dire qu'il y en a qui font donc 15 fois plus, je suis nulle en calcul mental, mais ça fait 100 000 km par an, c'est ça?
C'est ça, oui. Il y a 5% des Français qui font 40% des voyageurs kilomètres. C'est toujours les enseignements de
mais
cette
pardon,
enquête.
Mais pardon, sur quoi vous basez? Excusez-moi, mais je voudrais comprendre comment vous êtes arrivé à ce chiffre. Comment vous l'avez calculé?
Mais l'enquête vous donne les kilométrages totaux et on divise par le nombre de Français.
Mais qui sont déclarés,
Oui, c'est une enquête auprès de 12 000 personnes, donc un échantillon représentatif.
Vous faites une moyenne ensuite en fonction du nombre de personnes justement que vous avez interrogées.
On corrige pour se mettre sur l'ensemble de la population française de plus de 6 ans et ça donne un résultat 6,3 voyages à longue distance par an, donc environ un tous les deux mois, mais une fois encore c'est une moyenne entre des gens qui voyagent beaucoup et d'autres beaucoup moins. Et puis 1200 km parcourus en moyenne par voyage, l'aller, le retour, éventuel parcours intermédiaire.
Et donc depuis 80 km jusqu'à des distances beaucoup plus lointaines quand on prend l'avion pour aller justement très loin en vacances. Ça fait partie
exactement.
Justement de cette variabilité finalement de nos déplacements. Charles Collet, l'aérien là-dedans, ça représente 9,4% justement de nos déplacements. La voiture, 72%, enfin, entre la voiture et l'autocar. Hein. Donc on voit qu'il y a vraiment une très très grosse différence entre nos habitudes, que la voiture reste encore un gros problème aujourd'hui. L'avion, 9,4%, ça, concrètement, pour bien comprendre, ça représente quoi en matière d'émissions de gaz à effet de serre alors de la part des Français?
Alors, au niveau mondial, on a le fait que en termes d'émissions de CO2, l'aérien représente entre 2 et 3%, le chiffre qui fait consensus, 2,5%, on va dire.
Sur l'ensemble des émissions.
Sur l'ensemble des émissions de CO2. Au niveau européen, ça monte à 4%, il y a plus de vols.
Donc c'est encore français, nettement la voiture qui pose problème.
Là, je parle des émissions de l'ensemble de l'économie française. Donc j'ai plus en tête pour la voiture, mais on arrive sur des chiffres qui sont quand même significatifs. Et pour la France, c'est 5%. À cela, il y a quelque chose qui est assez important, qui est spécifique vraiment au secteur aérien, c'est que il y a des effets CO2, donc on parle tout le temps d'émissions de CO2, mais en fait, le secteur aérien produit aussi des effets de réchauffement qui ne sont pas des gaz à effet de serre, en fait, et qui représentent environ deux fois plus que juste l'effet CO2.
C'est quoi, par exemple?
Il y a plusieurs effets. Il y a, par exemple, les oxydes d'azote, les NOx, qu'on appelle les NOx, qui ont des effets en haute atmosphère et qui engendrent une augmentation qui crée de l'ozone qui entraîne un réchauffement. Il y a une augmentation de la densité des cirrus par les avions. Il y a aussi des effets de traînée de condensation des contrails. Et en fait, tous ces effets-là, il y a encore beaucoup d'incertitudes parce que c'est très difficile à évaluer. Mais de ce qui ressort dans la littérature, donc avec des marges d'erreur élevées, les effets sont deux fois ce qu'est l'effet CO2 uniquement. Donc on se rend compte que le 5%, en fait, si on prend ces effets de non CO2, ils représentent potentiellement beaucoup plus.
Charles Collet, on va voir dans un instant qu'il y a des propositions, évidemment, issues de ce rapport pour essayer de faire baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Juste une question, quand on travaille justement sur cette problématique de décarboner au fond nos transports, nos déplacements, est-ce que l'idée c'est d'essayer de se déplacer exactement de la même manière, c'est-à-dire faire autant de kilomètres chaque année, ou est-ce que ça passe quand même par moins de voyages, donc quand même une attitude différente par rapport à nos déplacements?
Je pense que là, c'est ce que je disais auparavant, il y a quand même une nécessité d'aller vers plus de sobriété dans les déplacements, parce qu'en tout cas, avec le secteur aérien, les perspectives technologiques ne semblent pas suffisantes pour arriver à diminuer ces émissions. Donc en termes de perspectives technologiques, il y a plusieurs choses, hein. On peut penser au biocarburant, à l'hydrogène, on parle aussi d'e-fuels, mais toutes ces technologies-là, elles prennent un certain temps à être implémentées, et il y a sur chacune de ces technologies, technologie, on va peut-être pas rentrer dans le détail, mais y a des problématiques. Mmh. Vous parlez de l'huile de cuisson, voilà, y a une problématique d'usage des sols qui fait que bon, on peut pas généraliser cette pratique et ça suffira pas. Donc si on veut décarboner, à un moment, il faut, au global en tout cas, réussir à décarboner les émissions du secteur. Ou alors, on se dit, très bien, on garde des émissions extrêmement fortes dans le secteur aérien, mais ce qui signifie que sur tous les autres secteurs, si on veut respecter nos budgets carbone, il faudra décarboner encore plus. Et on se rend bien compte que ça semble difficilement réalisable.
En tout cas, Béatrice Jarige, le rapport l'indique, hein, l'objectif affiché pour vous, c'est de préserver la liberté de voyage, de découverte, de vacances et de contact avec ses proches, justement, qui permettent la mobilité de longue distance. Donc on verra avec vous dans un instant eh bien, quelles sont les solutions concrètes que vous proposez.
La Terre au carré sur France Inter.
C'était en effet aujourd'hui la première liaison commerciale après d'innombrables vols de prestige et d'essai entre Paris et New York pour Concorde et également entre Londres et New York. Retrouvons Jean-Pierre Kittard maintenant à bord du Concorde.
Paris-New York en 3h30, eh bien c'est chose faite depuis aujourd'hui. Après 22 mois d'attente, 21 mois et 18 jours, très exactement. Désormais, tous les jours, à 15 500 mètres d'altitude et à 2200 km/h, Concorde reliera Paris à New York en deux fois moins de temps que le plus rapide des Boeing.
Novembre 1977, comment voyager loin mais en émettant le moins de gaz à effet de serre possible? Le contre-exemple absolu, c'est le Concorde, Charles Collet, hein, finalement. C'est même un moyen de transport qui est plus du tout imaginable, d'ailleurs, aujourd'hui. Hein.
C'est vrai que ça semble difficile. Je trouve que on voit qu'un moyen de transport comme le Concorde, donc outre le fait qu'économiquement, bon, voilà, c'était...
Ça n'a jamais été viable.
Ça n'a jamais été viable. Ouais. Écologiquement, je pense qu'aujourd'hui, ce serait aussi clairement dépassé. Et plus on cherche à aller vite, plus en termes d'énergie, bah voilà, les frottements sont égaux proportionnels au carré de la vitesse, plus ça va consommer. Et je trouve que le parallèle qui est intéressant, c'est cette question de la vitesse, on la retrouve un petit peu, c'était une des propositions de la Convention citoyenne, sur la voiture aussi.
Avec les 110 km/h sur l'autoroute.
Exactement, voilà, donc ça c'est une vraie
mais
question.
Mais ça a fait débat, hein, parce que effectivement c'est à vitesse constante, donc ça peut être... Enfin, ça a fait débat parce que réduire la vitesse à 110, c'est à condition d'être à vitesse constante.
Oui, complètement. C'est pas exactement la même. Enfin, la problématique est similaire, mais on va dire l'échelle est pas la même. Là, avec le Concorde, c'est quand même la vitesse poussée à l'extrême, et donc la consommation aussi.
Béatrice Jarige. Alors, allons vraiment au cœur maintenant de ce rapport sur les voyages longue distance, donc des Français, pour essayer de nous inviter justement à faire baisser de 5% par an, donc notre moyenne. Qu'est-ce que préconise concrètement le Shift Project? Allez, donnez-nous les trois points les plus intéressants, les plus efficaces pour vous, pour justement essayer d'y parvenir. On commence par quoi? C'est quoi finalement le plus intéressant pour vous?
Le plus intéressant, de développer des alternatives, en particulier ferroviaires, au voyage en voiture et au voyage en train, au voyage en avion, pardon. Mmh. On est beaucoup parti sur cette idée-là. On est parti aussi, je voulais souligner quand même un peu l'originalité de notre travail, puisque finalement, quand des gens comme les auteurs de rapports du GIEC produisent des rapports, on trouve énormément de choses sur la technique, en fait. C'est dû à la méthode même, hein, du travail de ces experts qui relèvent tout ce qui paraît dans les journaux sur les différents sujets. Et donc, on trouve énormément de choses sur la technique, mode de transport par mode de transport, assez peu sur les usages. Donc, nous, on est parti vraiment sur les usages et sur les motifs des déplacements. Avec le motif vacances qui ressort fortement, ça vous étonnera pas beaucoup, et en particulier sur les voyages aériens. Donc on est parti pas mal sur l'idée de contrôler, c'est pas le bon terme, mais
stabiliser.
Même faire décroître légèrement
les distances.
Hein. Faire décroître les distances, faire parcourues, faire décroître le nombre de vols.
Mm-hmm. Donc ça, c'est une réflexion qu'on devrait tous avoir, nous, individuellement, c'est ça? Essayer d'abaisser le nombre de kilomètres qu'on réalise chaque année.
Oui, oui, le sujet, c'est bien évidemment la conscience individuelle sur ces questions, qui est en fort progrès, on le voit partout. C'est aussi la façon dont la collectivité, la société peut s'organiser pour que les choix de l'individu ne soient pas trop douloureux, on va dire.
Mais vous êtes focalisé là, par exemple, vous nous parlez de l'aérien, alors que dans votre rapport, encore une fois, c'est 72% par la route, et la voiture en particulier. Donc est-ce que ce ne serait pas le premier levier plutôt de s'intéresser à ce qui se passe derrière le volant?
Ah, on s'intéresse beaucoup à la voiture aussi. On s'intéresse à la voiture. La voiture, elle va devenir électrique. mais il faut aussi qu'elle soit légère et qu'elle ne consomme pas trop. Au passage, je voulais juste signaler une remarque un peu transverse à toutes nos analyses du plan de transformation de l'économie française. On est vigilant sur une double contrainte, on appelle ça double contrainte carbone ou contrainte énergie et carbone. C'est-à-dire que le carbone, c'est les émissions de gaz à effet de serre qui doivent diminuer de 5% par an. Mais il y a aussi le sujet de l'énergie qui ne sera pas disponible indéfiniment. Donc la voiture électrique, si l'énergie n'est pas carbonée, on peut considérer qu'on a rempli une partie du contrat. On restera en termes de consommation d'électricité plus élevée que le train. Donc c'est quelque chose d'important.
Donc c'est justement la réponse que vous faites autour de l'automobile, c'est de dire ben, pour essayer de faire en sorte qu'on consomme moins, il faut prendre le train beaucoup plus. Vous parlez de multiplier par 3, c'est ça, nos usages du train, pour justement laisser le volant de côté.
C'est ça. Dans notre maquette, on multiplie par 3 le nombre de voyageurs kilomètres réalisés en train. Du côté de la voiture, il y a une baisse de trafic. Donc on a 20% en l'occurrence de baisse du trafic entre maintenant et 2050. Donc c'est pas une baisse non plus énorme. Et la voiture devient électrique, plus légère, sans doute donc un peu moins rapide aussi. Ce qui va avec le 110 km/h sur autoroute qui donne une cohérence au scénario, puisque il n'y a pas de raison que certains puissent rouler très vite alors que la grande majorité des personnes auraient des véhicules assez peu rapides.
Il y a un message de Cathy sur franceinter.fr qui nous écrit qu'il faudrait, en l'occurrence sur les trains, des trains beaucoup moins chers et permettant de voyager aussi avec des bagages, ce qui n'est pas facile actuellement. Il faudrait aussi des offres de location de voitures à l'arrivée moins chères et plus faciles d'accès. Est-ce que finalement, Charles Collet, il y a pas un problème aussi dans l'offre quand on voit aujourd'hui qu'il y a certains trajets, y compris en France métropolitaine, hein, je veux dire, qui sont moins chers en avion qu'en train, et qu'effectivement l'offre, parfois les trains sont complets, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un problème par rapport à ça ?
Complètement, hein, c'est un vrai problème. Et on voit que même des gens qui ont entre guillemets une conscience écologique, qui ne souhaiteraient pas prendre l'avion, quand ils sont confrontés à la réalité des écarts de prix entre potentiellement un billet à 25 euros en avion versus un train qui peut être potentiellement à 150, bah, la conscience écologique par rapport au prix, le critère prix là, est tellement prépondérant que l'avion va l'emporter. Donc il y a une vraie nécessité aussi de jouer effectivement sur les tarifs et potentiellement d'augmenter le prix de l'avion en fait et actuellement...
Ou de baisser celui du train.
En parallèle, mais effectivement, il y a potentiellement le train qui est peut-être trop cher, mais ce qui est sûr, c'est que l'avion actuellement est peut-être pas assez cher. En tout cas, ne prend pas en compte le vrai coût de ses émissions. Ça, c'est une certitude.
Béatrice Jarry, j'avais aussi dans la question finalement la proposition des équipements, en tout cas envisager autrement l'accueil des personnes qui souhaitent prendre le train, et ça fait partie de ce que vous préconisez dans cet aspect plus désirable du train. Ça fait partie de ça, justement, de pouvoir trouver des navettes, du transport à la demande, des équipements, des vélos, par exemple, assistance électrique, tout ça autour du train.
Tout à fait. Donc, on a pas mal réfléchi à l'interface entre le transport et le tourisme, finalement. Tout le secteur du tourisme, qui est un secteur énorme de l'économie française, hein, 7 à 8% du PIB, qui n'est pas traité par ailleurs dans notre démarche de plan de transformation. On l'aborde assez largement dans ce rapport-là. Et très clairement, venir en train sur son lieu de vacances, ça suppose d'être sûr qu'on va trouver une solution pour faire les derniers kilomètres et également pour se déplacer sur place. Donc, trouver des flottes de vélos à assistance électrique, par exemple, chez les hébergeurs, c'est intéressant, c'est important pour permettre de venir en train plutôt que de venir avec sa voiture.
Et même, comme disait Cathy dans son message, des offres de location de véhicules à l'arrivée. Parce que je veux dire, entre le moment où on sort du train et le moment où on arrive sur son lieu de résidence, il peut y avoir plusieurs kilomètres. Ça, on ne peut pas le faire en vélo électrique, hein, si on a des valises. Donc... Il y a peut-être quelque chose à développer aussi de ce point de vue-là, pour utiliser la voiture plus ponctuellement, et donc qu'elle ne nous appartienne pas non plus.
Oui, tout à fait. Il faut toute une panoplie de solutions de mobilité. En fait, bien sûr, des transports en commun qui sont déjà présents, en particulier dans les villes d'une certaine importance, mais qui doivent continuer à se développer. Et puis des solutions du transport à la demande, des flottes de véhicules électriques, voitures, vélos. Il faut jouer sur tous ces paramètres pour rendre possible le déplacement sans voiture.
Allez, on vous retrouve dans un instant. On poursuivra donc la découverte de ces préconisations pour tenter, autant que faire se peut, de faire baisser nos émissions de gaz à effet de serre lors donc de nos déplacements longue distance.
La Terre au carré, Le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier sur France Inter.
Nous sommes ici à quelques kilomètres du centre-ville de Stockholm. Dans le parc de Vintervinken se tient un festival de l'environnement. Tout ce que la Suède compte comme activiste se trouve ici. Parmi eux, il y a Maya Rosen. Elle a lancé une campagne sur Internet il y a quelques temps. « We stay on the ground », ce qui signifie en français « on reste au sol ». Son objectif, faire en sorte que 100 000 personnes ne prennent pas l'avion pendant un an.
Il y a toujours tellement de gens qui ne savent pas à quel point la situation est sérieuse. Ils ne sont pas conscients de l'impact de leur propre style de vie. Tout le monde semble attendre que quelqu'un arrive et résolve le problème. Mais nous devons comprendre que personne ne va le faire à notre place. C'est à nous de le faire. Ce n'est pas réaliste de croire que nous allons atteindre une neutralité carbone sans faire d'efforts. Alors oui, ce sera dur, ce sera difficile. Il faudra faire des sacrifices. Mais il faudra le faire parce que nous n'avons pas le choix si nous voulons avoir un futur.
Voilà, extrait de Tour d'Europe sur Arte en septembre 2019. La honte de prendre l'avion, justement, Charles Collet, on en parlait avec vous juste avant. Les Français, visiblement, n'ont pas encore assez honte hein, pour arrêter de prendre l'avion. Est-ce qu'on a le moyen d'évaluer, justement, si le message nordique a eu vraiment une influence sur les usagers de ces pays-là ou pas ?
Alors, il y a quelques études qui ont été faites. Le problème étant que le mouvement a vu le jour vers 2018.
Juste avant la crise Covid.
Ouais. Donc voilà, c'est assez difficile d'estimer empiriquement des effets juste sur une année. En Allemagne, il y a eu une étude en Allemagne, une étude en Suède. Et il semblerait qu'il y a des effets, mais qui sont assez minimes.
Parce que quand bien même, quand on regarde, il y a ces sites internet où on voit les trafics d'avions, on voit que le gros du trafic, c'est beaucoup en Asie, en Chine en particulier, etc. Est-ce que ça pèse quelque chose ? Parce que le problème de l'aviation, c'est que c'est quelque chose de très globalisé aussi. Donc même si si tous les Français arrêtaient de prendre l'avion demain, est-ce que vraiment il y aurait un impact significatif en termes d'émissions de gaz à effet de serre, je veux dire au-delà de la symbolique, sur le trafic et donc sur les émissions, ouais.
Alors là, je pense qu'on est sur des questions qui partent plus vers de la géopolitique, mais si la France commence à prendre des mesures plus ambitieuses sur, par exemple, la taxation des billets d'avion, il y a déjà plusieurs pays en Europe. Bon, la France en fait partie, mais il y a une taxe française, taxe de solidarité,
Chirac,
qui est taxe Chirac exactement en 2006, qui a été créée en 2006, et actuellement elle est de 2,50€ sur une classe économique, pour un vol intra-européen. Donc on se rend compte que c'est pas des montants très élevés. Donc si en France il y avait une augmentation vraiment importante de la taxe, potentiellement, ça pourrait se généraliser en Europe. Et à partir du moment où en Europe, s'il y a des choix qui sont faits ambitieux sur ce sujet, c'est aussi pour les voyageurs qui viennent de Chine potentiellement, qui repartent, ils doivent aussi payer cette taxe. Et on peut penser que il y aurait des négociations qui pourrait faire avancer les choses au niveau international. Je mélange un petit peu de mon domaine de compétences là sur le plan international, mais je pense que si au niveau européen il y a rien qui est fait, c'est difficile de s'attendre à ce que ce soit fait dans
d'autres
pays.
Aux États-Unis ou dans d'autres pays. Ouais.
Béatrice Jarry, avant de passer aux questions des auditeurs pour le Shift Project, on parlait de tout à l'heure de la tarification et du prix des billets d'avion parfois beaucoup moins cher que les billets de train sur le sol français. Est-ce qu'il faut faire justement baisser le prix des billets de train ? Est-ce que ça fait partie des priorités ou pas de vos préconisations ?
Oui, alors d'abord, l'avion est sans doute pas assez cher, il faut le dire. Certains billets d'avion à prix ultra bradé, c'est quand même une anomalie qui s'explique par le fait que l'avion, les compagnies sont aussi capables d'aller chercher des clientèles très contributrices qui payent très cher le billet. Mais bon, c'est pas sûr qu'avec l'envolée des prix du carburant, les prix de billets d'avion ultra agressifs se maintiennent. Alors le train cher, oui, ça ressort beaucoup hein, d'enquêtes. Les Français trouvent le train cher.
Et qu'est-ce que vous vous dites à ce sujet-là ? Faut faire baisser le billet de train ou pas ?
Là-dessus, ça serait bien de faire baisser le billet de train. En tout cas, on peut de manière ciblée sur certaines populations, puisqu'on est quand même avec un mode de transport organisé, des billets nominatifs, on peut parfaitement proposer des tarifs pour les familles, pour les personnes à faibles ressources, pour les jeunes. Ça se fait déjà hein, d'ailleurs, notamment à l'initiative des régions sur le transport régional. Vous avez quand même beaucoup de tarifs, y compris des choses qui joignent tourisme et transport. Hein,
Sauf que vous qui préconisez justement qu'on prenne beaucoup plus le train, donc ça veut dire aussi qu'il faut faire des aménagements encore plus importants sur le territoire français. Est-ce que du coup ça va avec une baisse des billets de train ou pas ? Ou est-ce qu'il faut les maintenir à un taux élevé pour justement financer ces équipements nécessaires pour prendre plus le train ?
Ah bah, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir des coûts à mettre en face. C'est-à-dire que la sensibilité au prix du billet est très élevée. Donc, il n'y a pas de sujet. Si on baisse le prix du billet de train, on va avoir du monde. Et ça veut dire qu'il faut faire davantage de trains. Ça veut dire qu'il faut mettre davantage d'argent sur le réseau ferré, dont on sait qu'il y a des besoins de régénération, mais aussi de modernisation qui permettront de débiter beaucoup plus de trains qu'actuellement.
Donc c'est une équation compliquée. Hein.
Voilà, et on essaye de dérouler l'ensemble du raisonnement pour voir à quoi pourrait ressembler une France dans laquelle il y a trois fois plus de monde dans les trains qu'actuellement. Ouais.
Une remarque de Christian sur franceinter.fr nous écrit « Je crois que le transport maritime, les porte-conteneurs et autres sont de loin les plus gros consommateurs de carburants fossiles, donc les plus gros émetteurs de CO2 en termes de transport. Cependant, cette information n'est presque pas connue et diffusée. Pourquoi, Béatrice Jarige ?»
Alors là, vous êtes plutôt sur le transport de marchandises, si je ne m'abuse.
Oui. Mais pourquoi c'est vrai qu'on entend moins souvent ça ?
On entend moins souvent ? Je ne sais pas si on l'entend si peu souvent que ça.
En tout cas, c'est vrai
mais
que le transport...
on parle moins facilement du transport de marchandises que de passagers. Les gens sont
et là, en
général...
l'occurrence, ça ne concerne pas votre rapport, hein, puisque sur ces trajets longue distance, ce transport-là ne rentre pas en ligne de compte.
Non, non, non. Sur nos trajets longue distance, on a un tout petit peu de part de marché du bateau, mais c'est moins de 1%.
Ouais.
Les transports en ferry, on ne s'est pas spécifiquement penché sur ce sujet.
Tiens, justement, quand on prend le ferry, souvent, on monte dans le ferry avec sa voiture. Il y a pas mal de questions d'auditeurs, Elisabeth ou Olivier, qui nous demandent pourquoi les formules train plus auto avec les voitures sur le train ne sont pas plus développés, ne sont pas relancés même.
Les formules auto-train, alors là.
Elisabeth, à une époque, on pouvait mettre les voitures sur le train pour certaines destinations. Pourquoi ça n'existe plus, par exemple ? Est-ce que ça pourrait être une solution ? Comme on met la voiture dans le ferry, en l'occurrence.
Ça pourrait être relancé, effectivement. On l'évoque brièvement dans notre rapport, parce qu'on souhaite plutôt mettre l'accent sur la possibilité de trouver un véhicule à destination plutôt que de faire voyager sa voiture sur le train. Mais il y a des personnes qui sont attachées à cette forme de déplacement. Et donc, ça serait une bonne chose, effectivement, que quelques services auto-train reviennent en France.
Allez, on va écouter justement au sujet du train et des lignes à grande vitesse un message vocal d'une auditrice.
Bonjour, moi je m'appelle Clémence, je viens de Reims. Ma question porte sur les lignes à grande vitesse, donc les fameuses LGV. Je me demandais s'il était important, s'il était peut-être nécessaire de réfléchir à comment les développer, sachant que l'on répète sans cesse qu'il faut aller vers plus de sobriété énergétique. Voilà, merci beaucoup par avance pour votre réponse.
Et merci pour votre question, Béatrice Jarige. Vous répondez à notre auditrice.
Oui, alors construire une ligne, par nature, c'est émissif de gaz à effet de serre et les choses se calculent puisque derrière on va faire circuler des trains et qui permettent d'éviter des voyages en avion ou en voiture et qui donc eux sont bénéfiques pour l'environnement. Ce qui est important aussi de dire, c'est que faire circuler des trains à grande vitesse, ça coûte pas très cher. J'ai envie de le dire parce que souvent on dit on va mettre des trains classiques, ça sera moins cher que les TGV. Il n'y a aucune raison pour que ce soit moins cher, puisqu'on s'est donné la convention dans notre plan de transformation de ne pas parler d'euros, on peut décrire les choses en termes physiques, mais si vous faites... vous reliez la ville A à la ville B, distante de 200 km à 200 km/h, vous mettez une heure. Si vous roulez qu'à 100 km/h, vous mettez deux heures. Vous avez besoin de deux fois plus de conducteurs, deux fois plus de contrôleurs, deux fois plus de matériel roulant. In fine, c'est plus cher de rouler pas vite que de rouler vite. Donc, si vous voulez écluser beaucoup de trafic, pardon de parler familièrement, c'est très efficace d'avoir un système de grande vitesse.
En tout cas, on voit aujourd'hui le débat autour de la LGV Bordeaux, par exemple, Toulouse-Bordeaux, qui pose un certain nombre de problèmes, au vert en particulier. Mmh. Il y a encore de vrais débats là-dessus, parce que le bilan carbone n'est pas bon, justement, quand on investit, on déploie de nouvelles rails là-dessus.
Il faut regarder comment est fait le bilan en question. Ça dépend énormément des perspectives de trafic qu'on met en face, évidemment. L'investissement, il est assez bien connu. Les perspectives de trafic derrière, et qu'auraient fait les gens s'ils n'avaient pas pris le train, c'est toujours sujet de débat. Donc c'est pas étonnant et c'est très sain qu'il y ait des débats autour des projets. Mais les gens qui pensent que ces projets sont une bonne chose ont de solides arguments à faire valoir.
Camille, des messages des auditeurs.
Oui, Anne nous écrit « J'habite dans un village où la gare a été transformée en habitation, la ligne de chemin de fer en piste cyclable, des bus aux heures de pointe mais aucun aux heures creuses. Du coup, je n'ai pas d'autre choix que la voiture pour aller à la ville la plus proche, environ 15 km. C'est rageant. » Et Jean-Jacques ajoute « À la campagne, nous nous déplaçons peu en avion. Les vacances ne sont pas souvent notre priorité, mais on nous supprime les services publics et on doit vivre. Donc aussi nous déplacer pour aller travailler, faire nos courses, etc. Un petit peu l'impression d'être encore légèrement oublié, même par votre émission très centrée sur le problème certes important des vacances, mais qui n'est pas un problème de survie pour nous autres campagnards, nous dit-il. Alors, qu'est-ce que vous répondez, Béatrice Jarrich, puisque c'est le rapport du Shift Project. C'est pas que le tourisme, hein, quand vous parlez de à partir de 80 km, d'ailleurs.
Non, c'est pas que le tourisme, mais à partir de 80-100 km, les motifs de déplacement qui ressortent assez fort, c'est par exemple la visite à la famille et aux amis. Hein. En dehors des vacances, il y a des motifs familiaux.
Pour répondre à ces
familiaux,
gens qui habitent à la campagne et qui n'ont pas d'autre choix, il y en a plein des gens qui habitent en zone périurbaine aussi, d'ailleurs, qui n'ont pas d'autre choix que de prendre la voiture.
Mais bien sûr, mais ils vont continuer à prendre la voiture. Je redis que notre perspective de baisse du trafic automobile, elle est finalement assez mesurée. Quand on dit 20% de moins à horizon 2050 que maintenant, c'est essentiellement des gens qui vivent en zone urbaine, qui ont accès facilement au train.
Et vous dites, vous êtes très clair, hein, sur les zones rurales, il faut justement épargner les automobilistes dans ces zones-là et faire des efforts, par ailleurs, beaucoup plus dans le domaine urbain. C'est vraiment un des messages pour préserver les libertés, justement.
Oui, bien sûr.
Bouge de là, la série de podcasts sur nos mobilités. Prochain épisode, l'avion vert, solution ou mirage ?